commence avec sa femme, et il apporta le reste pour le déposer au pied des apôtres. Pierre, Ananie, comment se fait-il que Satan envahisse ton cœur, que tu mentes à l'Esprit, l'Esprit Saint, et que tu détournes pour toi une partie du montant de l'homme? Tant que tu le possédais, il était bien à toi. Et après la vente, tu pouvais disposer de la somme, n'est-ce pas? Alors pourquoi ce projet a-t-il germé dans ton cœur? Tu n'as pas menti aux hommes, mais à Dieu. En entendant ces paroles, Ananie tomba et il expira. Une grande crainte saisit tous ceux qui attendaient la nouvelle. Les jeunes gens se levèrent, enveloppèrent le corps et ils l'emportèrent pour l'enterrer. Il se passa environ 3 heures. Puis sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Le domaine, c'est bien à ce prix-là que vous l'avez cédé? Oui, c'est à ce prix-là. Pierre, pourquoi cet accord entre pour mettre à l'épreuve l'Esprit du Seigneur? Voici, que sont à la porte les pas de ceux qui ont enterré ton mari, ils vont t'emporter. Aussitôt, elle tomba à ses pieds et elle expira. Les jeunes gens qui rentraient la trouvèrent morte et ils l'emportèrent pour l'enterrer auprès de son mari. Une grande crainte saisit toute l'Église et tous ceux qui apprenaient cette nouvelle.
Voilà, donc c'est pas un texte particulièrement drôle ou particulièrement apaisant, on va dire, et c'est d'autant plus étonnant de l'entendre que le livre des Actes des Apôtres est plutôt un livre, si vous le connaissez un petit peu, qui montre les bienfaits de Dieu auprès de la communauté naissante, les guérisons qu'opèrent les apôtres, même à la limite de très grands pécheurs comme ceux qui lapident Étienne, c'est une scène qui est rapportée dans le livre des Actes des Apôtres, ne connaissent pas le sort de Ananie et Saphire ici, qui visiblement sont vraiment sévèrement châtiés pour ce qu'ils ont fait. Si je prends cet exemple, c'est pour rappeler cette question de la responsabilité, encore une fois, envers le bien commun. C'est ça dont il est question dans l'histoire de Ananie et Saphire. Ils lèsent le bien de la communauté, ils lèsent le bien commun. Et on voit que ça, c'est quelque chose que dans ce livre qui parle de l'Église naissante, Dieu, à un moment donné, ne pardonne pas ce mensonge. C'est pas simplement un petit passage, c'est un mensonge qui a été véritablement prémédité par ce couple qui fait qu'il cache quelque chose et qu'il ne participe donc pas au bien de l'ensemble de la communauté, alors qu'ils s'y sont engagés, c'est ça aussi. La communauté ne leur a pas demandé de tout donner, mais ils disent qu'ils donnent tout et en fait ils en gardent une partie. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous interpeller. Qu'est-ce que je fais finalement du bien de mon frère? Qu'est-ce que je fais du bien que je pourrais donner et que je ne donne pas? Qu'est-ce que je fais de ce bien qui devrait être commun à toute l'Église, peut-être à toute l'humanité, et peut-être que je ne donne pas ou que je ne donne pas suffisamment? C'est un texte, encore une fois, sévère, mais qui doit nous réveiller peut-être un peu sur cette question du bien commun et de la responsabilité, de la manière dont je veille sur le bien, ma bienveillance à l'égard du bien commun. Un dernier mot sur cette bienveillance comme responsabilité, pour arriver à la situer par rapport aussi à ce que j'évoquais précédemment, c'est-à-dire, je disais tout à l'heure, évidemment, on vit dans un monde complexe, un monde qui est marqué par toute une série de contingences, mais il ne faut pas non plus que ces contingences doivent être les nôtres. Et je crois que ça, c'est une grande caractéristique du chrétien. La sœur Anne Lécu, qui est dominicaine, qui a beaucoup exercé en prison, disait un jour qu'une des grandes caractéristiques du chrétien, ça doit être de plaider, de dire qu'on est dans une forme de... Je ne sais plus quelle était exactement l'expression, j'aurais dû la noter, mais elle disait de non-fatalisme. On doit toujours dire qu'un chrétien, pour lui et pour les autres, il n'est jamais soumis à la fatalité. Moi, j'ai été frappé quand j'étais enseignant, que je recevais des parents d'élèves, par exemple, qu'on avait beaucoup ce discours de la fatalité qui était assez présent, même avec des jeunes adolescents. Donc ça prenait deux aspects. Ça prenait parfois l'aspect mon petit chéri, c'est pas trop sa faute s'il a des mauvaises notes à l'école parce que la société ceci, la société cela, etc., etc. Ou au contraire, le côté désespoir, c'est-à-dire je n'ai pas fait exactement ce que j'aurais dû faire quand il avait 3 ans et demi et c'est pour ça qu'il a des mauvaises notes aujourd'hui en économie. Vous voyez, il y avait un côté un peu... Et donc il ne s'en sortira jamais alors qu'il avait 16 ans parce que à 3 ans j'ai pris une mauvaise décision. Alors ce n'est pas pour nier, encore une fois, le fait qu'on est dans des structures sociales, psychologiques, qui parfois nous enserrent et qui parfois nous empêchent de faire ce qu'on voudrait. Ce n'est pas pour nier non plus qu'on peut parfois faire des mauvais choix auprès des personnes dont on a la responsabilité. Mais c'est pour dire aussi qu'il y a une bonne nouvelle qui nous est annoncée, c'est qu'on est toujours encore une fois en chemin et que cette bienveillance, elle doit s'exercer sur le fait que le bien que l'autre peut atteindre, la responsabilité que j'ai à son égard, elle ne s'arrête pas à un moment donné. Elle ne s'arrête pas et elle ne peut pas prendre pour prétexte l'existence de structures comme ça qui devraient nous dominer pour dire que je ne peux pas dire à l'autre si tu es libre, si tu as un chemin de liberté qui peut s'ouvrir. Et ça, je crois que c'est quelque chose auquel il faut tenir extrêmement fermement. Le pape Jean-Paul II le soulignait beaucoup quand il avait développé ce qu'on a appelé à sa suite les structures de péché. Il avait dit, à la suite notamment des évêques latino-américains, qu'il existe des structures de péché. Donc il pensait plutôt à des structures sociales qui pouvaient pousser à mal agir, mais on pourrait l'étendre à des structures mentales, psychologiques, qui parfois peuvent pousser des gens à mal agir, donc ça existe. Mais Jean-Paul II rappelait aussi que dans la tradition chrétienne, le péché est toujours une décision personnelle. Et donc on ne peut jamais imputer à une structure supérieure le fait à un moment donné qu'on ait pris telle ou telle décision. Et je crois qu'encore une fois, ça on peut dire c'est une surresponsabilisation, mais c'est aussi une bonne nouvelle de rappeler qu'on n'est jamais esclave de rien. On a toujours une marge de liberté qui existe dans toutes les situations propres du chrétien que de savoir la saisir à un moment donné, même si elle est très ténue et qu'elle est encore une fois pas toujours parfaite. Voilà, donc c'était un peu le propos de ce deuxième temps de présenter la bienveillance comme le fait de veiller sur, le fait d'exercer une juste responsabilité à l'égard de l'autre. Je ne suis pas seulement bienveillant parce que je suis un homme qui chemine avec d'autres hommes, c'était le premier temps de mon exposé, je suis aussi bienveillant parce que je suis responsable de ceux avec qui je chemine et que je dois être attentif à eux. Mais vous allez me dire, tout ça a l'air un peu écrasant quand même, arriver à ce point, c'est-à-dire se dire, mais voilà, si je suis responsable de l'autre et du bien de l'autre, est-ce que je ne vais pas me retrouver complètement écrasé par cette responsabilité? C'est pour ça que je voudrais évoquer avec vous le fait que, si je file encore une fois cette métaphore de la marche, on n'est pas juste en marche avec d'autres humains, responsables d'eux, mais on est aussi guidé par quelqu'un. Et ça, comme chrétien, on ne peut pas l'oublier, on est guidé par le Christ. Et la bienveillance, si elle est effectivement une caractéristique de notre humanité, si elle est une responsabilité, elle est aussi un don que nous recevons de la présence et de l'action de Dieu à travers nous. J'ai encore 5 minutes. Je ne sais pas qui est chargé du temps. C'est bon ? D'accord. La bienveillance comme don. Alors là-dessus, je voudrais juste encore une fois faire une petite incise. Souvent, on a peut-être tendance à présenter notre manière d'agir comme chrétien, ce qu'on appelle la morale ou l'éthique en fonction des traditions, comme étant soit le respect de règles extérieures, soit quelque chose qui serait simplement une espèce d'adaptation, comme ça, une navigation à vue à ce qui se passe au quotidien, sans surtout avoir des règles morales à appliquer à des situations trop complexes. En réalité, encore une fois, notre perspective chrétienne, et peut-être plus singulièrement catholique, elle se situe dans un milieu entre ces deux extrêmes. Ce qui est très intéressant et très stimulant, c'est de voir que la philosophie contemporaine, notamment américaine, aussi deux noms, hein, Elizabeth Anscombe ou Alistair MacIntyre, est en train, d'un point de vue un peu profane, de redécouvrir ça, en disant qu'au fond, ce qui devrait fonder notre action morale, ça n'est pas juste s'adapter à des situations, ça n'est pas juste une loi, qu'elle soit religieuse ou non, mais ce serait de redécouvrir comment agirait ce qu'ils appellent un homme vertueux dans telle ou telle circonstance. Comment agirait un homme qu'on pourrait prendre comme modèle dans des circonstances par nature complexes. Et ça procède dans notre réflexion chrétienne et plus particulièrement catholique. Chrétienne parce que c'est d'abord le Christ que nous avons à suivre. Nous n'avons pas à suivre un modèle ou des règles écrites comme chrétiens, mais nous avons toujours à nous demander qu'est-ce que Jésus ferait ou comment est-ce que Jésus procédait. Le Christ, c'est l'exemple parfait de l'homme vertueux. Donc dans des situations complexes, qu'est-ce qu'aurait fait Jésus? Quel regard Jésus aurait posé sur l'autre? Donc on ne suit pas encore une fois une règle extérieure, mais on suit quelqu'un. Quelqu'un, donc un homme, avec toute l'épaisseur de son humanité. Et je disais plus spécialement catholique, parce que je crois qu'on a à redécouvrir aussi cette vénération des saints et des saintes, qui parfois peut sembler à certains un peu poussiéreux dans l'Église catholique, mais qui, je crois, est assez intéressant. Si Jean-Paul II, à mon avis, était moraliste, et en même temps était le pape qui a canonisé et béatifié le plus de saints de l'histoire de l'Église, c'est peut-être pas un hasard complet. C'est-à-dire qu'il sait aussi très bien que la vie morale, elle se vit, elle se déploie de façon beaucoup plus nette si on prend d'abord comme exemple quelqu'un. Ça me frappe aussi beaucoup comme prêtre quand je célèbre un baptême. Quand on baptise un enfant, notamment un jeune enfant, au fond, on ne lui donne rien. Vous voyez, on pourrait se dire, on lui remet une petite Bible, on lui remet un petit décalogue à accrocher dans sa chambre pour que, surtout quand il saura lire, il l'apprenne par cœur. On pourrait lui donner les prières quand même à apprendre par cœur, ou les commandements de l'Église. Alors peut-être ça se pratique parfois, mais ce n'est pas dans le rituel du baptême. Dans le baptême, une des seules choses qui est demandée, c'est qu'il ait un prénom, donc un patron. Et ce qui est recommandé, très fortement recommandé, même si ce n'est pas obligatoire, c'est qu'il ait un parrain et une marraine. C'est-à-dire des personnes, que ce soit les saints ou les saintes, ou les parrains ou les marraines, qui le guident sur le chemin de Dieu. Des personnes concrètes, des personnes humaines. Pas des commandements qui lui seraient donnés de l'extérieur. Notre vie chrétienne, c'est toujours de suivre, finalement, l'exemple de personnes. Et plus particulièrement et ultimement, l'exemple du Christ. Alors mettons-nous un peu à l'exemple du Christ. Je vous propose qu'on écoute comment est-ce qu'il agit, comment est-ce qu'il parle à l'église de Laodicée. C'est des premières pages du livre de l'Apocalypse, où le visionnaire de l'Apocalypse voit le Christ qui s'adresse à cette église.